des éditions de Minuit au journal de Midi. Il n'y a qu'un pas, France Culture Midi et demi. Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Il y a un an, Emmanuel Macron lançait le grand débat destiné à répondre à la crise des Gilets jaunes. Or, un an après, il ressort non seulement que toutes les contributions n'ont pas été restituées publiquement, mais aussi qu'une partie de la matière recueillie a été sous-exploitée par le gouvernement.
Les grévistes mobilisés contre la réforme des retraites achèvent aujourd'hui leur sixième semaine de mobilisation.
Oui, une journée marquée notamment par de nouvelles actions, une réunion de l'intersyndicale, sans oublier un séminaire gouvernemental censé permettre à l'exécutif de tourner la page. Invité de la rédaction dans une dizaine de minutes, Olivier Roucan, politologue et chercheur associé au Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques. La Chine représente une menace existentielle pour le système international des droits de l'homme. Ce constat aussi sévère qu'attendu est à lire dans le dernier rapport annuel de l'organisation Human Rights Watch publié hier. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Le loup, quel animal social est-il ? On en parlera avec notre invité, le réalisateur Jean-Michel Bertrand. Son nouveau long métrage sort en salle aujourd'hui. Il s'appelle Marche avec les loups et nous serons ensemble donc dans une vingtaine de minutes.
Merci et à tout à l'heure. C'était en septembre dernier, conscient déjà de la nécessité de rassurer les Français sur sa future réforme des retraites. Emmanuel Macron s'était rendu à Rodez pour débattre avec quelques 500 concitoyens de ce dossier aussi inflammable qu'emblématique de la seconde partie de son quinquennat. Et au vu de la situation actuelle, si certains diront que le chef de l'État avait raison d'être soucieux et de vouloir ainsi se montrer à l'écoute, d'autres jugeront surtout que ce déplacement à l'allure de grand débat national n'aura à l'évidence pas permis de renouveler l'exercice qui, quelques mois plus tôt pourtant, lui avait permis d'ouvrir une issue de secours à la crise des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, au regard des manifestations à Paris le week-end dernier, il est même permis de se poser cette question. La crise des Gilets jaunes est-elle véritablement terminée ? Ou dit autrement, ce fameux grand débat national lancé il y a un an jour pour jour a-t-il réellement été un succès tel qu'annoncé à l'époque ? La restitution qui en avait été faite au printemps dernier avait traduit, selon les propres mots du Premier ministre Édouard Philippe, un immense besoin de justice et d'équité. Ce qui semble se vérifier encore aujourd'hui, mais surtout faute de temps pour analyser donc toutes les données, cette restitution s'était révélée incomplète. Alors qu'en est-il aujourd'hui, alors même que les archives nationales continuent à recevoir les dernières traces de cet exercice inédit ? Élément de réponse avec Anne Fauquemberg.
Si 100% de la plateforme numérique avait pu être analysée et restituée, c'était loin d'être le cas pour les autres moyens d'expression. Seuls 2/3 des 16 000 cahiers citoyens présents dans les mairies avaient été traités et sur les 16 000 emails et courriers reçus au 8 avril, un peu plus de 5 000 avaient été analysés. Alors depuis l'été dernier, le gouvernement a communiqué, le travail a bien été terminé et toutes les synthèses, c'est vrai, sont désormais en accès libre sur legranddebat.fr. En revanche, tout n'est pas en open data. Les originaux des cahiers citoyens sont stockés aux archives départementales, accessibles sur simple demande. Pour les courriers et les emails, il faudra passer par les archives nationales. Au cabinet du ministre Sébastien Lecornu, on explique qu'il était techniquement compliqué d'insérer ces téraoctets de données dans le site du Grand Débat, mais surtout qu'il aurait fallu nommer, comme le RGPD, le règlement européen sur les données l'oblige, une personne en charge de la protection de ces contributions, des milliers de pages d'écriture qui demandaient un sérieux travail d'anonymisation. Le coût a évidemment pesé dans la balance, alors que le montant du grand débat s'est élevé à 12 millions d'euros.
Alors évidemment, un an après le lancement de ce grand débat national, la méthode du gouvernement, soucieux d'être à l'écoute des inquiétudes des Français sans pour autant reculer, fait écho au mouvement de mobilisation actuel contre la réforme des retraites. Au 42e jour de grève, la détermination des opposants au projet de loi se vérifie encore ce matin, notamment aux abords des ports. 7 d'entre eux sont toujours bloqués depuis hier et jusqu'à vendredi. Blocage également devant des dépôts de transport. En revanche, le site de traitement des déchets d'Ivry-sur-Seine, le plus important centre de traitement de la région parisienne, a lui été évacué ce matin par les forces de l'ordre. Enfin, quand la direction de la RATP annonce des améliorations dans un trafic perturbé, la SNCF prévoit de son côté 80% des TGV et TER en circulation aujourd'hui, 75% des Transiliens et 50% d'intercités. Alors, si les retraites continueront donc probablement à scander les prochains mois, d'autres réformes bloquées pour l'instant dans l'entonnoir doivent néanmoins reprendre, elles aussi, leur cheminement, d'où le séminaire gouvernemental organisé depuis ce matin et visant donc à fixer leur cadencement. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors, il devrait y être notamment question du climat, mais également de la lutte contre le communautarisme, bref, de tout, Pierre, donc, sauf
des retraites.
À chaque rentrée, Édouard Philippe a pris l'habitude de rassembler son équipe gouvernementale pour faire le point sur les dossiers en cours, les réformes, et fixer les priorités pour les mois à venir. L'objectif affiché est de reprendre le cours de l'acte 2 du quinquennat, on dira presque d'un cours normal, même si le calendrier politique, vous l'avez dit, sera rythmé par la réforme des retraites et son adoption d'ici l'été prochain. Aujourd'hui, la fenêtre de tir semble idéale, puisque l'on est dans le temps du compromis, une négociation va s'ouvrir avec les partenaires sociaux, et puisque le mouvement s'essouffle, il y a moins de grévistes et moins de manifestants dans les rues. Les transformations en profondeur du pays doivent se poursuivre, malgré les inquiétudes, malgré les oppositions. Emmanuel Macron le revendiquait lors de sa présentation des vœux à la nation le 31 décembre. D'habitude, dit le chef de l'État, à mi-mandat, c'est le moment du quinquennat où l'on renonce à agir avec vigueur. Je ne céderai rien au pessimisme ou à l'immobilisme. Avec les priorités pour le prochain semestre sont donc énoncées: handicap, écologie, lutte contre le communautarisme. Des projets de loi seront portés devant les députés. Un texte sur l'économie circulaire, un sur le grand âge et la dépendance, un autre sur la réforme de l'audiovisuel public. Comme d'habitude, le Premier ministre énoncera la feuille de route du gouvernement dans les prochaines minutes. Un calendrier politique qui sera perturbé par les municipales. Les travaux parlementaires seront suspendus pendant 2 semaines, le temps du scrutin.
Merci Pierre Neveu. Et pour continuer d'évoquer avec nous cette séquence politique, invité de la rédaction aujourd'hui, Olivier Roucan, politologue et chercheur associé au Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Stéphane Robert. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Nous évoquions au début de ce journal les 1 an du grand débat national. Est-ce que la mobilisation actuelle contre la réforme des retraites et la crise donc des gilets jaunes, 1 an plus tôt, peuvent selon vous se rapprocher, ou bien ces deux mouvements n'ont-ils rien à voir?
Alors, il y a une grande différence, c'est que le mouvement des grèves est organisé dans des secteurs professionnels qui sont structurés, avec des statuts assez solides, et sur un objet au départ particulier, les retraites, même si l'on a vu assez rapidement que tout ceci se produisait dans un contexte où l'enjeu des services publics est clairement posé. Il ne s'agit pas simplement des retraites. Il s'agit du fonctionnement, des problèmes de management interne. On le voit avec les hôpitaux, on le voit avec les enseignants. Ils le disent eux-mêmes, là. Ils continuent à être mobilisés sur les retraites, mais la question est beaucoup plus large. C'est celle aujourd'hui de la crise du métier. Et là, alors pour le coup, en élargissant un peu la focale, on voit bien que ce mouvement particulier sur les retraites s'inscrit dans une crise assez profonde, qui est celle tout simplement de notre société et des catégories qui... se pose souvent, si vous voulez, la question de leur identité, à la fois de leur métier, on le voyait avec les gilets jaunes, mais aussi de leur lieu de vie, hein, les territoires en déprise. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez profond et qui ne s'est ni terminé avec le débat, le grand débat, et qui ne se terminera pas avec les négociations en cours sur les retraites.
Comment est-ce que vous expliquez que ce conflit perdure comme ça, à l'image un petit peu des gilets jaunes, il y a 1 an, alors qu'il n'y a apparemment pas vraiment de dynamique ascendante à ce mouvement, dans la mobilisation.
En grande partie du fait de ce qui vient d'être évoqué, c'est-à-dire que aujourd'hui nous sommes dans une crise de fond, dans tous les cas, sur la façon de faire société. Et on voit bien que ça se traduit politiquement, d'ailleurs, sous la forme de la colère, souvent. Colère sociale, mais aussi colère politique. Et que il y a là un déterminant, c'est-à-dire que être en colère aujourd'hui devient quelque chose de, j'allais dire, d'assez récurrent et qui a une importance sur le comportement politique, pour expliquer notamment, c'est une des variables explicatives du populisme. Donc, on voit bien, si vous voulez, qu'il y a des tendances lourdes, déstructuration du social, la difficulté, au-delà même du pouvoir d'achat, hein, la déstructuration de la famille, la déstructuration du travail, et la déstructuration des idéologies. Donc tout ceci, on a l'impression que la période ouverte par les Gilets jaunes permet de poser en conscience et globalement cette somme d'enjeux plus ou moins perçue de façon consciente. Et on peut rajouter à ceci les modes de mobilisation, à la fois sociale et politique, évoluent. Et on voit bien que, j'allais presque dire, les mouvements sociaux, quels qu'ils soient, gilets jaunes ou grèves, s'adapte à la société de l'info continue et du en même temps. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans le mode de mobilisation, même avec moins de grévistes, on a la volonté, et de ce point de vue, les syndicats se sont bien adaptés aux enseignements tirés de la crise des gilets jaunes, eh bien, même avec peu de grévistes, il y a une capacité à occuper le terrain, et je dirais même les terrains. Donc c'est une stratégie de harcèlement et de visibilité qui a été totalement apprivoisée par les syndicats. Et c'est ce qui fait la durabilité, même avec moins de monde, de ce type de mobilisation.
Est-ce qu'il va y avoir des conséquences? Quelles conséquences on peut imaginer à ça, à court et à moyen terme? Je parle de conséquences politiques électorales.
Ben je pense que, comme j'ai indiqué un peu, si vous voulez, pour des tas de catégories un peu alors en déshérence, défavorisées, plusieurs termes peuvent être utilisés, vous avez des comportements électoraux qui sont soit l'abstention, soit de se porter ou sur des partis anti-système ou contestataires ou populistes. Là, le fait qu'il y a depuis plus d'un an des mobilisations, je dirais donc continues, même si distinctes, en tous les cas continues, pourrait faire que s'exprime dans les urnes, même si le scrutin municipal est particulier, une certaine colère. Et donc, ce qu'il faudra observer, c'est le basculement de l'abstention vers un comportement électoral qui, encore une fois, a de fortes probabilités d'être ou contestataire ou populiste.
Est-ce que ça peut s'exprimer à l'occasion du scrutin qui arrive là, dans 2 mois, les municipales?
Alors voilà, c'est toute la question. Alors il y a une spécificité de ces élections municipales, parce qu'on est dans un rapport de proximité, parce qu'on le répète à l'envi, le maire est la figure préférée des Français. Alors tous ces facteurs pourraient jouer, si vous voulez, en faveur d'une déconnexion entre ce qui vient de se passer, l'expression de cette colère, et l'idée de participer, somme toute, à une élection qui reste dans l'esprit des gens locaux, avec des enjeux très particuliers, et avec ce rapport de proximité qui, on l'a vu d'ailleurs au mouvement des Gilets jaunes, permet, entre guillemets, d'adoucir un peu les choses. C'est très difficile à savoir, mais je pense que cet effet pourra quand même être assez faible, finalement, et qu'on aura toujours une certaine partie des électeurs qui sera motivée par de la colère et ça va s'exprimer dans les urnes.
Merci Olivier Roucan, politologue et chercheur, je le rappelle, associé donc au Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Stéphane Robert. Après plusieurs semaines, sinon des mois de manifestations marquées par des violences, il aura donc fallu attendre la diffusion d'une vidéo montrant un policier faire un croche-pied à une manifestante le 9 janvier dernier à Toulouse pour que l'exécutif finisse par déplorer des comportements inacceptables. Hier, Emmanuel Macron a demandé au gouvernement des propositions claires pour améliorer la déontologie des forces de l'ordre, une demande qui intervient évidemment dans un contexte marqué en réalité par plusieurs polémiques, en particulier la mort à Paris le 3 janvier dernier de Cédric Chouviat après son interpellation par des policiers. En début de semaine déjà, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner avait lui-même d'ailleurs rappelé les forces de l'ordre à leur professionnalisme et leur déontologie. D'où cette question: que pourraient être justement ces nouvelles orientations sur le plan de la déontologie? Florence Turm a posé la question à Stéphane Lemercier, membre de l'équipe de droit pénal à l'Université de Montpellier et auteur du livre précis d'éthique et de déontologie dans la police. Pour lui, vous allez l'entendre, l'une des pistes principales est celle de la formation.
Je pense que l'une des premières choses, ça va être de revoir les formations des fonctionnaires de police. Et normalement, une des maximes qui revient souvent dans la formation des policiers, c'est « force doit rester à la loi », et qui est malheureusement détournée de son sens premier, puisque à l'origine, ça veut plutôt dire que c'est la loi qui aura le dernier mot, mais pas nécessairement qu'on doive employer la force pour la faire respecter. En tout cas, ça ne veut pas dire que les policiers peuvent employer la force à tout prix. Le nouveau code de déontologie de 2014 impose aux policiers de faire preuve de discernement en toute circonstance et donc de prendre la mesure des conséquences de leurs actes, ce qui interroge leur éthique personnelle. Ça doit pouvoir être adapté sur le terrain, même si c'est pas facile, mais ça doit pouvoir être adapté sur le terrain.
Doit-on réfléchir également sur les techniques d'intervention, les techniques d'immobilisation qui ont été au centre de nombreuses polémiques ces derniers jours?
Oui, bien sûr, là encore, la police française a pour habitude de mettre en œuvre la maxime qu'on nous enseigne, force doit rester à la loi. Donc quand un fonctionnaire est face à une infraction, il a l'impression qu'il doit aller jusqu'au bout pour réprimer cette infraction, peu importe les conséquences. Alors que dans d'autres pays, on met beaucoup plus en avant le dialogue, que ce soit en Allemagne ou même en Angleterre. Les policiers sont formés de manière beaucoup plus précise à entretenir un dialogue et à faire baisser la tension plutôt qu'à devoir avoir le dessus coûte que coûte sur la personne à laquelle ils sont confrontés. Et voilà, la police française, elle est souvent dans la confrontation, alors que d'autres polices sont dans le dialogue et la désescalade.
On a Stéphane Lemercier, membre de l'équipe de droit pénal à l'Université de Montpellier. Il répondait à Florence Turme. Alors que le spectre d'une destitution plane au-dessus du président américain depuis le quasi-début de sa mandature, c'est aujourd'hui que la Chambre des représentants doit voter pour transmettre enfin au Sénat l'acte d'accusation qu'elle a retenu finalement contre Donald Trump. Ultime étape donc avant le début du procès en destitution du locataire de la Maison-Blanche, vraisemblablement mardi prochain. Alors on le sait, du fait de la majorité républicaine au Sénat, l'acquittement est pour l'instant l'issue la plus probable, mais les démocrates espèrent bien malgré tout faire émerger des informations embarrassante pour Donald Trump. Presque le calendrier ne leur est pas forcément favorable, et notamment chez les sénateurs démocrates dans la course à la présidentielle. Pourquoi ? Parce que les candidats vont devoir faire un choix, en somme, privilégier soit le terrain pour mener campagne, étant entendu que le bal des primaires approche à grands pas, soit le procès à Washington. Quoi qu'il en soit, et hier soir avait lieu donc le 7e et dernier débat avant le caucus de l'Iowa qui aura lieu le 3 février prochain. Cela signifie qu'on devrait connaître le nom du futur ou de la future adversaire de Donald Trump dans le courant de l'été. Or, au jeu des pronostics, eh bien ces derniers jours ont vu la remontée dans les sondages du sénateur du Vermont Bernie Sanders. Le socialiste de 78 ans a d'ailleurs dominé le débat hier soir tout en faisant face aux critiques, en particulier celles venues de son amie et rivale Elizabeth Warren. C'est une correspondance à Washington signée Gregory Phillips.
Il est à la gauche du Parti démocrate, mais hier au centre du podium. Bernie Sanders, interrogé sur les risques de guerre en Iran, met immédiatement les pieds dans le plat. Moi, en 2002, je n'ai pas voté la guerre en Irak, sous-entendu, contrairement à son voisin Joe Biden, obligé de reconnaître une erreur. Puis Bernie Sanders décline son programme de candidat socialiste.
87 millions de gens.
La couverture santé universelle, l'impôt sur les grandes fortunes. Mais après 50 minutes de débat, le sénateur du Vermont doit répondre à la polémique de ces derniers jours. Fin 2018, il aurait confié à son amie et rivale Elizabeth Warren que jamais une femme ne gagnerait cette présidentielle 2020. Je n'ai jamais dit cela, dit Sanders. Mais Warren le contredit immédiatement et précise. Est-ce qu'une femme peut battre Trump? Regardez les hommes sur cette scène. À eux quatre, ils ont perdu 10 élections. Les seuls qui ont gagné tous les scrutins auxquels elles ont participé, ce sont les femmes, Amy, Klobuchar et moi. Le sénateur du Vermont accuse le coup. Malgré tout, Bernie Sanders reste dans les derniers sondages le favori de ce caucus de l'Iowa, quasi à égalité avec l'ancien vice-président Joe Biden.
Voilà presque 3 ans maintenant qu'à grand renfort de tweets rageurs du président Donald Trump, mais plus encore de surtaxes, que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine tient en haleine les marchés financiers. Et c'est pourtant dans une relative indifférence que les deux premières économies mondiales doivent signer aujourd'hui un accord partiel censé mettre fin à la surenchère douanière. Alors sans doute les investisseurs sont-ils désormais plus préoccupés par la situation au Moyen-Orient? Et puis surtout, cet accord dit de phase 1 ne videra pas totalement la querelle entre Washington et Pékin, puisqu'il évite soigneusement deux sujets épineux en particulier. D'une part, les subventions d'État aux entreprises chinoises, et d'autre part, le cyberespionnage. Enfin, parmi les ultimes épisodes de nature à prolonger donc encore ce feuilleton sino-américain, Pékin a annoncé le mois dernier toute une série de sanctions contre plusieurs ONG américaines en réponse au vote à Washington d'une loi de soutien aux manifestants hongkongais. Et c'est d'ailleurs pour avoir critiqué la politique de la Chine en matière des droits humains que le directeur de l'ONG new-yorkaise Human Rights Watch a été jugé indésirable à Hong Kong. Kenneth Roth était censé y présenter le week-end dernier le 30e rapport annuel de l'organisation avant d'être refoulé donc à l'aéroport de Lille. Et c'est du coup du siège des Nations Unies que l'organisation a finalement rendu public son rapport hier. Étude sur les pratiques contre les droits humains dans une centaine de pays, et comme prévu, Nadine Epstein, les autorités chinoises en prennent pour leur grade.
Jugeant son expulsion de Hong Kong comme un signe de plus que Pékin est en train de resserrer son emprise sur Hong Kong et de restreindre encore davantage les libertés déjà limitées, le directeur de Human Rights Watch ajoute que cette interdiction d'entrée n'est rien à côté de la répression que subissent les activistes chinois. Surveillance, contrôle, arrestation arbitraire, emprisonnement, torture ou disparition forcée pour quiconque demande le respect des droits fondamentaux à Hong Kong comme au Xinjiang comme à Pékin. Le rapport annuel de Human Rights Watch incrimine le président chinois et le Parti communiste pour avoir créé un état policier tentaculaire afin de contrôler totalement la société. Élimination de toute dissidence, dissolution d'organisations non étatiques, interdiction de médias indépendants et limitation sévère de l'accès au net. Pour l'ONG, les autorités chinoises, fortes de leur puissance économique, dissuadent les États de les critiquer et Human Rights Watch de demander au gouvernement qui, pour accéder au marché et aux richesses chinois, ferme les yeux sur la répression de Pékin, de changer d'attitude.
Est-ce parce que l'exemple de la Corée du Nord et l'attitude de l'administration Trump l'ont convaincu que détenir l'arme nucléaire était un meilleur moyen de forcer le respect, ou plus simplement parce que le fait d'avoir respecté ses obligations internationales ne lui ont offert aucune garantie? Toujours est-il que l'Iran, acculé par de très lourdes sanctions américaines, a repris l'enrichissement d'uranium, manière de brandir à nouveau la menace nucléaire. Et voilà pourquoi les Européens ont engagé hier une partie diplomatique difficile pour contraindre la République islamique à revenir au respect de ses engagements, une solution soutenue d'ailleurs par les États-Unis, c'est-à-dire ceux-là même qui ont déchiré l'accord de Vienne de 2015. Quoi qu'il en soit, la réaction courroucée de Téhéran ne s'est pas fait attendre. Si les Européens cherchent à abuser de ce processus, ils doivent également être prêts à en accepter les conséquences, a assuré la diplomatie iranienne dans un communiqué. Toujours en Iran, de nouvelles manifestations ont eu lieu par ailleurs hier pour la quatrième journée consécutive, des défilés pour dénoncer l'attitude des autorités dans la gestion de l'accident de l'avion de ligne ukrainien qui a fait 176 morts, c'était mercredi dernier. La police anti-émeute s'est déployée pour leur faire face et a procédé à plusieurs interpellations. Enfin, toujours en Iran, dans la perspective cette fois-ci des législatives attendues le mois prochain et dans un effort évident d'apaisement, le président Hassan Rouhani a appelé ce matin les autorités chargées de la validation des candidats à ne pas disqualifier à tout va. Le peuple est notre maître et nous sommes ses serviteurs, a-t-il encore tenu à préciser. La Turquie a estimé ce matin qu'il était trop tôt pour parler d'un échec du cessez-le-feu en Libye, et ce, en dépit donc du refus hier du maréchal Haftar de signer un accord formel avec son rival lors des négociations organisées à Moscou. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs Ankara de menacer à présent d'infliger une leçon à l'homme fort de l'Est libyen s'il venait à reprendre ses attaques contre les forces loyales au gouvernement d'Union Nationale de Fayez al-Sarraj. Toujours est-il que sur place, en Libye, eh bien personne n'ose vraiment espérer la fin de la guerre. Alors comment les habitants de Tripoli vivent-ils ces événements? Maureen Mercier a pu joindre un résident de la capitale qui a accepté de témoigner, à la condition toutefois de taire son nom.
Ce père de famille vit dans le sud de la capitale, Tripoli. Ces dernières semaines, la ligne de front s'est dangereusement rapprochée de sa maison. Le cessez-le-feu, il n'y croit pas. Déjà hier soir, il entendait les bombardements reprendre.
Moi, je pense que la guerre, ça va continuer encore et encore et encore.
Depuis 9 mois, depuis que le maréchal Haftar a lancé son offensive sur la capitale, sa vie s'est arrêtée, comme celle de ses 5 enfants. Depuis une semaine, ils sont privés d'école. À cause des bombardements, les autorités ont préféré les fermer.
C'est stressant. Continuer l'école pour nos enfants, c'est le plus important dans notre vie. J'ai pas le temps de travailler parce que pour la sécurité, je dois être toujours à côté de la maison. Malheureusement, la guerre a cassé tous nos rêves.
Pour lui, Haftar ou son rival Sarraj, c'est du pareil au même. Deux hommes avides de pouvoir qui se font la guerre. Aussi parce que la France, l'Italie, la Turquie, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, comme tant d'autres, les encouragent et leur donnent les moyens de se battre. Il en veut particulièrement à la France.
Les droits de l'homme, la liberté, l'égalité, ce sont seulement des publicités sur les chaînes françaises. Les intérêts sont plus importants que la vie des autres.
Pour lui, que Sarraj ou Haftar gagnent, il y aura une victime certaine, les Libyens eux-mêmes.
Depuis le show médiatique orchestré depuis Beyrouth par le fugitif et ex-magnat de l'automobile Carlos Ghosn, on en avait presque oublié le soulèvement au Liban lancé il y a presque 3 mois, jour pour jour, pour réclamer le départ d'une classe dirigeante accusée de corruption et d'incompétence. Hier, des rassemblements ont été organisés un peu partout dans le pays sous le slogan « La semaine de la colère » pour protester contre le retard pris dans la formation d'un nouveau gouvernement. Enfin, en Tunisie, c'est aujourd'hui que prend fin officiellement le délai de 2 mois pour former justement un gouvernement. En cas d'échec, eh bien l'heure serait à la dissolution de l'Assemblée, au risque donc de retarder un peu plus encore les mesures nécessaires pour juguler l'inflation et le chômage. Hier, dans une ambiance néanmoins festive, des milliers de Tunisiens ont célébré dans le centre de la capitale le 9e anniversaire de la Révolution. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi pluvieux sur le nord-ouest et agréablement ensoleillé sur la moitié sud et est du pays. Quant aux températures, elles afficheront entre 10 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet, et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.